Aujourd'hui à Tam Tam, retour sur la fermeture d'Alphabet, la plus grosse plateforme de vente illicite de drogue. Réchauffement climatique. Est-ce que la politique québécoise de quotas pour les voitures électriques du gouvernement pèsera sur les plus démunis? Les espaces sauvages. Un lieu de création en art moderne au cœur d'Alger. Mais d'abord, le premier ministre du Canada est à la une du magazine Rolling Stone. Qu'en est-il du vedettariat de nos politiciens? Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Bienvenue à Tam Tam, ici en studio avec moi. Si vous nous suivez en Facebook Live, Alice Chantal Chandem.
Bonjour.
Marie-Claude Simard.
Bonjour.
Et Leonardo Jimeno.
Allô, allô, bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour à tous. Après Bill Clinton, après Barack Obama, c'est au tour de Justin Trudeau de se trouver en une du Rolling Stone. Pourquoi est-ce qu'il peut pas être notre président? Se demande un brin provocateur, le magazine. C'est écrit d'ailleurs, vous allez le voir.
Ah, mais oui.
À propos du premier ministre canadien. Le journaliste qui a fait le papier là, dans le Rolling Stone se nomme Stephen Roddick. Roderick, dis-je bien, il a dit, le va-et-vient entre, citant Trudeau, Justin, le va-et-vient entre la presse et le gouvernement est essentiel pour que fonctionne une démocratie. Quand la presse est à son meilleur, ça nous pousse à faire de nous-mêmes. À nous, à faire de même, dis-je bien. Où s'interroge, où est-ce qu'on est, s'interroge Stephen Roderick. Il a dit, est-ce qu'on est dans les chroniques de Narnia? Eh bien, celle-là, ouais. Est-ce qu'on est sous une tente de récupération d'un festival pop? Est-ce qu'on est en 2009? Non. Il dit, nous sommes à Ottawa, nous sommes aujourd'hui à peine à 900 kilomètres au nord de Washington. Voilà quelques années. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être, Pierre Elliott Trudeau, le père du premier ministre actuel, avait déclenché quelque chose qui s'était appelé la Trudeau-manie. Trudeau-manie, au Canada, c'était quand il était devenu chef du Parti libéral, par la suite premier ministre. Puis, ben voilà que le fils, maintenant, à son tour, se retrouve à la une des pages qui sont loin d'être politiques. C'est pas au Canada que ça se manifeste. Hein, qu'on se souvienne, Bill Clinton avec son saxophone, ses verres fumés, un spectacle, une émission de télé de grande écoute de fin de soirée. Arnold Schwarzenegger, lui-même aux États-Unis, qui avait annoncé sa candidature au poste de gouverneur de la Californie. Encore une émission de fin de soirée. En France, au début des années 90, il y avait même eu une campagne qui avait vu le jour pour inciter fortement Yves Montand à se présenter à la présidence. On pourrait continuer comme ça longtemps. Aujourd'hui, 2017... Alors, des nouvelles en continu, des réseaux sociaux, du gazouillis à outrance. Vous savez qui je pointe?
Clin d'œil.
Oui, c'est ça. Et non pas Clinton. Qu'en est-il du lien entre la fonction publique de chef d'État et l'image sociale du vedettariat à outrance, qui est la traduction française de pipolisation?
Là, c'est le néologisme qui est né, hein?
Oh, tout à fait, oui. Allez, Chantal, c'est vous qui avez fait le papier cette semaine là-dessus.
Oui, tout à fait, oui. En fait, c'est un papier que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, hein, parce que franchement, notre premier ministre à la une de ce magazine,
On travaille pas loin l'un de l'autre, et à tout bout de champ, on l'entendait sourire.
Ah, mais oui, c'était tellement amusant de voir comme ça Justin Trudeau à la une de ce magazine-là. On sait que généralement, c'est quelque chose qui est réservé aux superstars, aux rockstars,
aux
vedettes sportives. Mais là, on est dans un autre domaine. On n'est pas dans le domaine de la musique, si vous voulez, ou du sport. On est en politique, c'est autrement plus sérieux. Ouais. On pose des questions vraiment qui interpellent le public. C'est quoi l'intérêt de notre public, du public en général, de voir le premier ministre Justin Trudeau à la une d'un magazine qui est d'habitude réservé aux gens qui font de la musique, ouais, du
Rolling
sport.
Rolling Stone, c'est ça, mais quand même, c'est très social aussi. Oh, des points
ça
de
fait
vue,
longtemps qu'ils font de temps en temps des photos d'autres, en fait, à la une, mm-hmm, d'autres personnes ailleurs que la musique.
Tout à fait, c'est pour cette raison qu'on parle de la pipolisation de la vie, ouais, de la vie politique. Mais oui, je parle de ce néologisme, c'est très très important. Ouais. C'est vrai que c'est un anglicisme quelque part, mais franchement, il faut dire que dans les années 2000, ce mot-là a vu le jour avec cette surexposition des hommes politiques dans les médias. Quelque part, ça frôle le scandale parce qu'on va fouiller dans leur vie privée.
Tout, tout,
on ramène leur vie, leur leur, je veux dire, leur vie secrète sur la place publique, ce qui, quelque part, peut réserver quelques surprises désagréables.
Marie-Claude, vous avez fouillé le dossier, vous aussi, vous avez trouvé des trucs intéressants. Oui. Mais d'abord, votre opinion là-dessus.
Ben, écoutez, c'est évident que M. Trudeau a pris ça très au sérieux, cette entrevue-là, parce qu'il lui a accordé vraiment beaucoup de temps à ce journaliste, M. Roderick. Mm-hmm. Alors, on voit que pour lui aussi, c'est très important qu'il de paraître dans le Rolling Stone. Puis d'ailleurs, M. Roderick a fait un très bon papier qui s'adresse au public, évidemment, aux lecteurs américains.
Lecteurs américains, oui, tout à fait.
Donc, évidemment, c'est beaucoup de choses qu'on sait déjà au Canada, mais il a fait quelque chose de très, comme on appelle, human, un feature sur de l'enfance. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant. Il lui pose aussi des questions intéressantes sur ses décisions politiques, comme par exemple, pourquoi a-t-il décidé d'augmenter le budget militaire au cours des 10 prochaines années. Puis, quelque part, ça contraste un peu avec son image pacifiste, hippie un peu, si on veut. Alors, il lui a quand même posé des questions, des questions sur son appui, d'une certaine façon, aux pétrolières, quand en même temps, il était au sommet de Paris, bon, mm-hmm, il a signé l'accord. Alors, un peu, il s'est pas gêné quand même pour poser des questions intéressantes. Je crois que, de prime abord, c'est un papier intéressant.
Oui, en fait, oui, juste dire deux petits mots. C'est certes un papier intéressant, mais je trouve qu'il y a un problème d'équilibre. Équilibre de l'information. Parce que dans le fond, il présente Justin Trudeau sous son plus beau jour, quelqu'un de conciliant, qui change tout en or, qui, excusez-moi, hein, franchement, c'est vraiment un personnage lisse, avec qui tout est beau, tout passe bien.
Oui, c'est humoristique.
Sauf que, quelque part, il y a des choses qu'il faut parfaire aussi.
Mm. Oui, mais je pense que c'est, en fait, il utilisait Trudeau pour critiquer son propre président. Alors, c'était juste, c'était en fait un prétexte.
C'était une espèce de portrait
croisé. Pour faire vraiment ombrage à Trump. Donc, il a exagéré la vedette Trudeau pour vraiment diminuer son propre président.
Je pense que lui, il est d'accord.
Oui, oui.
Lui, il est d'accord. Il a compris, Trudeau, ça fait longtemps, l'importance de l'image, l'importance des médias sociaux. Il a compris comment ça marche maintenant. Et toi, tu disais des autres présidents qui ont fait aussi la une. Puis,
tout à fait, oui.
Mais lui, ils savent quoi faire avec ça.
Avec ça. Il se sert des médias d'une certaine façon.
Puis donc, je pense que c'est très intelligent de sa part, utiliser Rolling Stone pour faire ça. Oui. En fait, c'est laisser aller avec Rolling Stone. Mm-hmm. Et puis c'est vraiment un travail. C'est lui, la seule personne qui a pris Trump comme il fallait dans le moment de
son salut. Tout à fait.
Alors, c'est comme lui, le némésis.
Exactement. Il le dit lui-même. Ouais,
c'est lui, le némésis de Trump.
Oui.
Vous voyez? Mm-hmm. Il participe. On ne peut pas être ailleurs de la guerre. On ne peut pas mettre de l'argent dans la guerre entre guillemets, mais je pense qu'il se sert très bien des médias sociaux. Et puis il fait quelque chose de bien.
Dans les années 60, regardez à quel point l'accélération est inouïe, là. Il y a eu un débat télévisé, les premiers débats télévisés entre les candidats. À l'époque, c'était Kennedy et Nixon, qui avait perdu, et Nixon avait refusé d'être maquillé. Kennedy avait bien accepté à la télévision. C'était du noir et blanc à l'époque, et il avait passé, comme on dit au Québec, comme une brique. Tu sais, c'était défoncer la chose, et il est devenu président. Au fil des années, l'aller vers la presse dite d'image, la presse dite de grands portraits, le Paris Match, par exemple.
Tout à fait,
ou le Vogue, et ainsi de suite.
Oui.
Ça change la perception des gens par rapport à qui sont ces
hommes politiques.
Voilà, et qui deviennent des vedettes au-delà de leur plateforme, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils défendent.
Tout à fait. En communication politique, je pense que c'est quelque chose qui se défend très bien. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on enseigne à ces gens-là? On leur dit qu'il faut passer ce qu'on appelle le tube cathodique. C'est-à-dire quoi? Il faut se servir de ces médias-là pour lisser son image, pour polir son image, apparaître comme quelqu'un d'agréable, surtout dans le cadre d'une élection, parce qu'on veut aller chercher un électorat, on veut toucher des personnes. Et quelles sont les personnes qui se laissent toucher de cette façon-là? Généralement, c'est les jeunes qui sont sensibles à l'image, c'est les femmes. Oui, on voit un président ou un premier ministre beau, il est tout beau, sa femme est belle, ses enfants sont beaux, ils sont photogéniques, Rodrigue le dit dans son article. Vous voyez, donc, quelque part, c'est un test réussi pour Justin Trudeau qui passe bien ce tube cathodique-là, le père de famille modèle.
Il est arrivé à construire l'image qu'il y a maintenant, puis il en profite. Mmh. Il en profite tellement que c'est ça son côté fort.
Oui.
Je pense que son côté fort politique, c'est vraiment l'image qui vend.
Est-ce que vous voyez ça ailleurs sur la planète? Est-ce que vous avez constaté ce genre de choses-là?
Non,
ailleurs?
Mais tout le monde regarde Trudeau comme ça dans la planète. Moi, je viens de l'Argentine, puis on a vu des vidéos faites en espagnol en montrant Trudeau comme les politiciens qu'on voudrait avoir.
Qu'on voudrait avoir.
C'est les politiciens qui n'ont pas peur de dire qu'il a fumé de la marijuana. C'est les politiciens qui n'ont pas peur de se promener dans la parade gay. C'est les politiciens qui n'ont pas peur de l'image.
Tout à fait. C'est l'homme moderne qui se promène avec sa femme, ses enfants, qui n'a pas peur de s'exposer, qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas et n'osent pas le dire.
Est-ce qu'Obama aurait été un prédécesseur de cette approche-là?
Mais oui, bien sûr. Puis je pense qu'aussi la relation, avant de finir, Obama, en fait, la relation avec Trudeau, il a commencé à faire comme une espèce de passage. Là. Je te donne...
Le bâton,
les
vous
bâtons.
Continuez à courir. Je continue. Ouais.
Mais moi, je ne vais pas m'arrêter au niveau d'Obama. Souvenez-vous de Marie-Antoinette. Vous souvenez d'elle? Ben oui, jusqu'aujourd'hui, dans les médias, on parle encore de Marie-Antoinette, donc c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui.
Et
c'est,
d'Argentine, on parle d'Eva Perón aussi.
Loin que cela, oui.
Toujours, on continue à parler d'elle. Alors, c'est vraiment savoir en profiter de l'image.
Tout à fait.
En fait, Eva, Obama, Marie-Antoinette, ben, je pense qu'ils ne pensaient pas à ça à ce moment-là. Mais
peut-être qu'ils le faisaient sans le savoir, c'est ça. Comme faire de la prose sans le vouloir.
Voilà. Ouais. Je pense qu'ils utilisent l'image, puis c'est très bien dans le moment qu'ils ont vu que c'est vraiment l'image.
C'est maintenant, peut-être c'est encore l'image. Mieux pour Trudeau, pour son image, que ce soit Trump qui soit à la présidence qu'Obama. Parce que là, ça le grandit, parce qu'il correspond tellement au mythe de la vedette,
un beau gosse
qui sait bien utiliser les médias sociaux.
On doit vous montrer une caricature qui est très belle, Marie-Claude, parlons-en.
Oui, ce matin, en me rendant au bureau dans le métro, j'ai pris le journal du métro, le 24 heures, et puis la caricature de M. Mathieu Rodrigue, qui publie sa caricature tous les vendredis dans ce journal. Donc, on va la montrer à l'écran parce que je pense que l'image, ça se passe d'explication.
Elle est terriblement drôle.
Je ne l'ai pas vue, celle-là.
Mais il faudra la regarder. Vous l'avez, là, Léo, c'est ça?
Oui, ça s'en vient. Lentement, mais ça s'en vient.
Qui va piano, va sano.
C'est vraiment l'image, on la décrit parce que ça va
lentement. Ah, parce qu'on ne la voit pas. Okay.
Non, moi je ne la vois pas.
Alors c'est tout simplement Trump qui a l'air très en colère, qui tient une version papier du Rolling Stone avec la une, puis avec Justin Trudeau, puis qui dit « fake star ». Évidemment,
fake news, fake star.
C'est un lien avec fake news. Alors, d'une certaine façon, il y a un peu raison parce que ce n'est pas vraiment une vraie vedette, là, mais on la mousse.
C'est une vedette.
C'est une vedette.
Une vedette?
Mais oui.
C'est une vedette du monde d'aujourd'hui.
De la politique. C'est une vedette de la politique.
C'est ça.
Là,
voilà.
Mais oui, c'est une image très, très intéressante à voir.
Et aujourd'hui, justement, le premier ministre actuel, par rapport à l'ancien premier ministre, l'autre est... M. Harper n'est plus nulle part dans le portrait politique.
Non, mais on dirait que le phénomène Trudeau a tout emporté sur son passage, a tout balayé parce qu'on ne parle plus
tout comme son père
de
dans
Stephen
les années 60, 68, 69.
Tout
même
à
chose,
fait.
C'est
tel père, tel fils, alors.
Donc, c'est un peu fort, ça.
Harper aussi, il correspondait pas vraiment aux critères de vedette. Voilà. Non plus au niveau du look, en tout cas au Québec, là, son image était plus difficile aussi à faire passer dans les médias.
Ce vedettariat, vous dites que la planète média, en Argentine, vous en avez parlé, ailleurs sur la planète, on observe ce qui se passe ici par rapport à la communication et l'utilisation de l'image par le premier ministre, par son bureau rapproché aussi, ça risque de faire tache d'huile, selon vous, Léo, ailleurs sur la planète?
Mais oui, bien sûr, ça fait, il laisse une trace pour le reste. Il faut apprendre à vivre avec les médias sociaux d'aujourd'hui. C'est comme ça que les gens s'informent maintenant. C'est comme ça qu'on voit, on continue à voir en partie de la vérité, bien sûr.
Tout à fait.
La lorgnette, là, c'est ça.
C'est ça, exact. Mais je pense que lui, il l'utilise très bien, puis qu'il s'en sert pour des profits politiques.
Ça va être intéressant à suivre, la suite des choses.
Tout à fait.
Alice Chantal Chandem, oui. Marie-Claude Simard, Leonardo Jimeno, tous les trois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'était un plaisir. Hein?
Très agréable. Si vous êtes sur Facebook Live, on vous dit au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir
bye
été
bye
des nôtres.
Bye bye.
Et si vous nous suivez ailleurs sur autre plateforme, je vous dis que la suite des choses, il sera question d'Alphabet, la fermeture, la plus grosse plateforme des ventes illicites de drogue. Il sera aussi question de voitures électriques au Québec, puis est-ce que la politique québécoise de quotas pour ces voitures-là, est-ce que ça pèsera sur les plus démunis? Et on vous parlera aussi des espaces sauvages. C'est un lieu de création en art moderne en plein cœur d'Alger. Ici Raymond Desmarteaux, au revoir.
Bye bye.
Ou à tout de suite.
Bye.
On apprenait la semaine dernière que la plateforme Alphabet avait été repérée par les autorités américaines, ce qui avait mené à l'arrestation d'un Canadien, Alexandre Cazé. Cazé était le créateur et l'administrateur d'Alphabet, une plateforme de vente illicite de drogue et d'armes dont le chiffre d'affaires avait frôlé le milliard de dollars. L'entrepreneur, de 26 ans, qui faisait du commerce illégal, a été arrêté le 12 juillet en Thaïlande, puis il a été retrouvé mort dans sa prison quelques jours plus tard. On dit de sites tels Alphabet qu'ils opèrent sur le « dark web » ou « dans le dark web », expression parfois traduite en français par « le web profond ». Attention, toutes les activités sur le web profond ne sont pas illicites. Comment les Alphabets de ce monde peuvent-elles ou peuvent-ils se soustraire de l'économie réelle et faire d'immenses profits sans rendre de compte à qui que ce soit? Marie Jobin s'est entretenue à ce sujet avec Mazara Paquet, Clouston. Elle est chercheuse en cybersécurité à Go Secure, une société qui fait dans l'élaboration de stratégies de sécurité et le design, dans l'essai et la gestion de systèmes sécurisés. Voici quelques moments de cette conversation.
En fait, à Alphabet, il faut voir ça un peu comme un eBay de la drogue. Je pense que c'est la meilleure manière de l'imaginer. C'est une plateforme qui a été montée, puis qui permet aux vendeurs de drogue d'aller sur la plateforme, se faire un compte, puis annoncer des services et des produits illicites sur lesquels les acheteurs peuvent aller et, par le biais de la plateforme, faire confiance aux vendeurs et acheter. C'est quand on dit faire confiance, tout d'abord, lorsqu'on achète des produits et des services illicites, il faut être anonyme. Donc, évidemment, il faut passer à travers une technologie qui nous permet d'être anonyme. Ça, en général, on va appeler ça le « dark web », que les gens aiment bien appeler. Mais en fait, juste pour vous restituer, le dark web, c'est le concept, c'est l'idée que les moteurs de recherche n'arrivent pas à indexer ces sites-là. Donc, lorsque monsieur, madame, tout le monde va aller sur Google, ils vont taper des mots-clés, des choses comme ça, bien le dark web, il n'est pas accessible par là. C'est aussi l'idée que les activités sur cet Internet-là sont illicites. Donc, lorsque l'acheteur veut acheter de la drogue, il veut être anonyme, donc il va passer à travers cette technologie-là qui lui permet d'être anonyme, mais aussi il va faire confiance à la plateforme qui lui va assurer que le vendeur ne va pas lui voler son argent. Donc, il va acheter un produit. Puis l'argent va souvent être tenu dans un système de tierce partie, le temps que le produit soit envoyé chez lui. Et par la suite, l'argent va être libéré au vendeur. Donc la plateforme, elle permet de un peu générer la confiance entre les acheteurs et les vendeurs, quelque chose qui ne serait pas possible si vraiment il n'y avait pas cette plateforme-là, parce que personne n'irait acheter à quelqu'un d'anonyme en ligne, lui donner son argent et s'imaginer que ses produits allaient arriver chez lui. Thank you. fait, il y en a plusieurs. Puis il y a aussi plusieurs activités. Mais il faut faire attention ici, la petite nuance, c'est... J'aime souvent dire que le dark web, c'est les activités illicites parce que il y a beaucoup de choses qui se font de manière anonyme qui sont pas illicites. On pense des fois à des gens qui veulent se communiquer ou qui veulent se donner de l'information sensible sans nécessairement qu'on reconnaisse la personne. Mais donc, c'est ça. Il y a plusieurs sites Internet. Aujourd'hui, il y a Anzaf Market qui a été fermé aussi, mais il y a encore en ligne Valhalla, Dream Market. Donc, il en existe plusieurs, des marchés illicites de la drogue. Alphabet était le plus gros, il a été fermé. On s'attend quand même à ce que d'autres continuent et prennent la relève. Ce qui est intéressant avec cette opération policière-là, c'est la coordination qui s'est passée entre les différentes forces à l'international de police. Ici, on parle de Alphabet qui a fermé. En fait, on en parle aujourd'hui, mais il faut juste se rappeler que ça a été fermé il y a 3 semaines. Quand on étudiait le marché puis qu'on a vu que le marché s'est fermé, on s'est demandé, bon, est-ce que les administrateurs sont partis avec l'argent puis ils ont juste fermé la plateforme puis tout le monde s'est un peu fait avoir. La police, elle a pas donné, elle a pas dit que c'est elle qui l'avait fermé parce qu'ils ont attendu un certain temps. Parce que pendant ce temps-là, il y avait la police néerlandaise qui, elle, monitorait le marché Anza Market. Elle avait réussi à prendre contrôle des serveurs et finalement, là, espionner un peu toutes les transactions. Et lorsque Alphabet a fermé, plusieurs utilisateurs, comme d'habitude, se sont dirigés vers un nouveau marché, se sont inscrits dans le marché Anza Market et ont donné plusieurs informations à la police néerlandaise sans le savoir. Parce que finalement, quand on s'inscrit, on donne notre adresse email, on donne notre clé PGP. Puis souvent, ben, si on n'a pas un bon operation security, ben, on se fait un peu prendre parce que ça va se relier à notre identité réelle. Ce qui est intéressant avec l'opération policière dernièrement, c'est le fait qu'il y a une coordination de la police entre la GRC, le FBI, la police néerlandaise, Europol, qui entre eux ont vraiment voulu faire mal à l'écosystème des marchés illicites en finalement coordonnant leurs efforts. L'idée ici, c'est la technologie qui est utilisée derrière ça, passe à travers des connexions qui sont anonymes. Généralement, c'est The Onion Router qui est utilisé et cette technologie-là, ce protocole-là, permet d'héberger des sites sans qu'on puisse savoir ils sont hébergés où, c'est-à-dire dans quel pays. Puis ça, en fait, c'est tout simplement parce que le site est hébergé sur, dans le fond, un serveur qui, lorsqu'il va se connecter à ses utilisateurs, va passer à travers plusieurs points de connexion dans le monde. Donc, c'est vraiment difficile de retrouver quel point de connexion est finalement le serveur final. Ça permet l'anonymité entre l'utilisateur qui se connecte au site et le serveur finalement qui est hébergé à quelque part que la police ne peut pas trouver en raison justement de cette technologie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les criminels, généralement, même en criminaux, parce que j'étudie là-dedans, on remarque qu'ils font des erreurs à un certain moment lorsqu'ils sont trop confortables. C'est un peu le cas du premier administrateur du premier marché illicite, M. Ulbricht. Et c'est le cas aussi de M. Alexandre Cazès, parce que même s'il avait toute la technologie derrière pour le protéger, il a quand même fait une erreur. Ce qu'il a fait, c'est lorsque les gens se connectaient sur Alphabet, mais avaient perdu leur mot de passe, ils devaient faire une demande de nouveau mot de passe. Et dans cette demande de nouveau mot de passe-là, il y avait un email qui était renvoyé à l'utilisateur, et dans ce email-là, il y avait l'information de M. Cazès. Ici, il a fait une erreur. Cette information-là, c'était son adresse email, pimpalex91@hotmail.com. Cette adresse mail-là qui retournait à son compte PayPal et à ses informations en ligne, donc vraiment très facile de le reconnaître par la suite.
Mazarin Paquet-Clouston, chercheuse en cybersécurité, au micro de Maryse Jobin.
Vous écoutez Radio-Canada International.
Radio-Canada International. 1, 2, 3, 4.
Esta es Radio-Canada International.
Voici le constat d'un chercheur, le chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, Germain Belzil, au sujet des voitures électriques. Quota de voitures électriques, 2 points, une taxe déguisée. La politique de quota de vente de véhicules hybrides du gouvernement provincial québécois soumet les constructeurs à l'obligation d'accumuler des crédits. Des crédits qui équivalent à 3,5% de leurs ventes. Un seuil qui est appelé à augmenter jusqu'à 22% en 2025. Avec comme objectif, pour les fabricants qui n'atteindront pas ces objectifs, d'acheter les crédits manquants d'autres fabricants qui auront des surplus ou directement du gouvernement. Dans une entrevue avec Alice Chantal Chandam, Germain Belzil estime que ces cibles sont irréalistes et que les constructeurs ne les atteindront pas.
Enfin, le gouvernement subventionne déjà l'achat de voitures électriques jusqu'à une concurrence de 8 600 $ par voiture électrique achetée. Et il a décidé d'en rajouter, en fait, pour stimuler les ventes de voitures électriques en établissant des quotas de vente. Alors donc, les fabricants devront vendre un certain pourcentage de voitures électriques parmi tous les modèles qu'ils vendent. En 2018, ce pourcentage s'établit à 3,5%. Donc, si un fabricant vend 100 voitures au Québec, ben il doit y avoir 3,5 voitures ou 3,5% de ces 100 voitures devront être des voitures électriques. Et ce pourcentage augmente avec les années jusqu'à 22% en 2022. Si on n'atteint pas le niveau requis, ce qui est probable, actuellement, en 2016, 1% des voitures vendues sont des voitures électriques et ou hybrides. Et donc, on devra sauter immédiatement en 2018 à 3,5%. Ce pourcentage va augmenter. Donc, la plupart des fabricants seront en défaut, en fait, de la réglementation gouvernementale et devront acheter des crédits, soit auprès du gouvernement ou soit auprès de fabricants qui ont des crédits en surplus. Ce qui sera le cas, par exemple, de Tesla, parce que Tesla ne fabrique que des voitures électriques. Alors donc, à chaque fois qu'ils produisent une voiture et qu'ils vendent une voiture au Québec, ben ils vont pouvoir vendre les crédits qui viennent avec la vente de cette voiture. Le gouvernement du Québec a établi la valeur des crédits à 5 000 $ chacun. Une Tesla Model S donne droit à 4 crédits. Donc, la compagnie Tesla, à chaque fois qu'elle vend un Model S, elle va vendre 4 crédits à General Motors ou à Ford ou à une autre compagnie et obtenir 20 000 $. L'autre côté de la médaille, c'est que les fabricants, à chaque fois qu'ils vendent un véhicule standard, donc un véhicule à essence, au pétrole, ils devront se procurer des crédits et les acheter. Et nous avons calculé qu'en 2005, à chaque fois qu'une compagnie qui est en déficit de crédit vend une voiture standard, donc à essence, elle devra acheter pour 175 $ de crédit et ce montant va augmenter jusqu'à 1 100 $. Et c'est donc équivalent à une taxe, dans les faits. En fait, on s'attendrait à ce que ça pousse le prix des voitures électriques à la baisse et que ça pousse le prix des autos non électriques, donc à l'essence, à la hausse. D'un montant de 175 $ la hausse pour les voitures standards en 2018 jusqu'à 1 100 $ pour chacune des voitures non électriques vendues en 2025. Et ce montant sera le même quelle que soit la valeur de la voiture. Par exemple, si vous achetez une voiture très économique comme une Yaris faite par Toyota, une voiture de 12 ou 13 000 $ mais ça va ajouter 1 100 $ au prix de la voiture en 2025. Si vous achetez un gros véhicule avec un gros moteur comme la Ford F-150 ou encore un gros VUS, mais ça va ajouter aussi 1 100 $ au prix de la voiture. Les plus riches sont ceux qui achètent en fait des voitures électriques ou hybrides parce que ces voitures sont encore considérablement plus chères. En fait, à peu près 90% des gens qui achètent des voitures électriques sont dans le quintile des revenus les plus élevés au Québec. Et ça va toucher d'une façon négative les ménages à plus faible revenu parce que ce sont eux qui achètent des voitures à essence économique, comme la Yaris, par exemple. C'est une mauvaise politique. C'est une politique qui est indéfendable au niveau de la redistribution des revenus. C'est une politique, en plus, qui donne très, très peu d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans une publication précédente, donc du mois de juin, nous avons calculé que si le gouvernement atteignait ses objectifs, il y a actuellement 13 000 voitures électriques ou hybrides au Québec en circulation. L'objectif du gouvernement pour 2020, c'est 100 000 voitures électriques ou hybrides et 1 million de voitures en 2030. Alors, même s'il atteignait cette cible en 2030 de 1 million de voitures, et même si ce n'était que des voitures électriques rechargeables, donc pas d'hybrides, seulement des voitures entièrement électriques rechargeables, malgré ça, il ne réduirait les gaz à effet de serre au Québec, émis au Québec de 3,6%. Or, son objectif pour 2030, c'est une réduction de 37% des gaz à effet de serre.
Germain Belzile, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, au micro d'Alice Chantal Chandam. Avec de nombreux Algérois, je partage toujours ces blessures quand on voit notre ville abîmée. Abîmée par le fric, par la pollution, par l'inculture, par le mauvais goût, par un tas de choses. Donc, faire quelque chose comme les ateliers sauvages en plein Alger, c'est vraiment une victoire. C'est ce que me disait cette semaine l'auteur et avocate Wazila Tamzali en parlant de cette aventure d'un lieu artistique qu'elle a mis sur pied au cœur d'Alger-la-Blanche, un lieu de création en art moderne. Voici quelques moments de notre conversation.
Les ateliers sauvages sont nés de ma rencontre avec des artistes algériens, jeunes. Ils n'aiment pas qu'on dise jeunes, disons contemporains, des artistes qui représentent la scène artistique algérienne aujourd'hui. Je les ai rencontrés, disons, un peu à un tournant de ma vie, parce que j'ai fait de la politique, j'étais militante féministe, comme vous l'avez dit. J'étais activiste, on peut dire aussi. Écrivaine, ça j'espère que je le suis toujours, que j'aurai le temps de reprendre l'écriture. Mais disons un tournant parce que je me suis réinstallée à Alger après une très longue période à Paris où j'ai passé 22 ans à l'UNESCO. Je m'occupais des activités sur les femmes, des droits des femmes. Et aujourd'hui, on peut dire que sur le plan politique, le pays est au point mort. Voilà, pour aller vite, si vous voulez. Parce que j'ai pas tellement envie de parler de politique frontalement. Et je m'intéressais à la politique parce que je m'intéressais à la société, parce que j'essayais de comprendre la société algérienne dans laquelle je vivais. Et le discours politique, comme le discours militant féministe, ne m'aidait plus à comprendre ce qui se passait. Et nous étions arrivés à une situation où, à un échec, hein, il faut dire, à des échecs, que je n'arrivais pas à expliquer. Et j'ai rencontré ces artistes, ces jeunes artistes algériens, qui sont vraiment dans le temps, qui sont dans la réalité des choses. Et ils ont parlé un langage qui m'a tout de suite séduite, parce que c'était un langage qui parlait de la créativité, qui parlait de... Et un langage que je trouvais plus près de la réalité des choses. Ils arrivaient à transmettre des images de cette réalité que le langage politique n'arrivait plus à transmettre, n'arrivait plus même à élaborer. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure, c'est une aventure à mon âge, qui est quand même assez avancée. Je me suis lancée dans cette aventure. J'ai eu l'opportunité financière d'acheter en plein centre d'Alger un très très grand lieu, qui était une friche urbaine qui fait 500 mètres carrés, que j'ai acheté avec l'idée de le mettre à la disposition des artistes, sans autre intervention de ma part. Donc les ateliers sauvages, c'est un centre de création artistique dans lequel je reçois des artistes, évidemment en majorité des artistes algériens, c'est facile à comprendre, mais aussi des artistes étrangers, c'est ouvert. J'ai reçu déjà une artiste grecque et une artiste allemande, une jeune bédéiste allemande qui a fait un travail absolument remarquable en un mois et qui sort en septembre un livre, un poème graphique sur Alger, de très très grande qualité, vraiment. Soit j'invite des gens dont je connais le travail et que j'apprécie le travail, ou sont des gens qui me sollicitent avec un dossier, quoi, c'est-à-dire un portfolio, oui, ce qu'ils font. Après, moi, je me renseigne, on se rencontre, etc. Mais aussi des écrivains. J'ai créé, liée aux ateliers sauvages, une bourse pour l'écriture scénario. Une bourse qui est composée d'une somme assez importante pour pouvoir vivre à Alger, en tout cas très confortable, et une résidence d'un mois aux ateliers. Donc on peut être aussi aux ateliers et résider, écrire. Mais c'est un lieu qu'on peut partager parce que c'est tellement grand. Il peut y avoir plusieurs artistes en même temps.
L'auteur et avocate Wasila Tamzali, lors de son passage cette semaine à Radio-Canada International, Madame Tamzali a notamment dirigé pendant 20 ans le programme sur la condition des femmes à l'UNESCO. De retour à Alger, elle vient de mettre sur pied les Ateliers Sauvages, un lieu de création en art moderne. Voilà, c'est là-dessus que s'achève notre tam-tam d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Chantal Saint-Sauveur, à la Régie Technique. Ici Raymond Desmarteaux. Au revoir. À bientôt.